Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Cet ouvrage de Les Plumes de la Sagesse se présente comme un guide pratique consacré au développement de la parole orale et, plus largement, de la communication expressive. Son principe central est explicite, proposer 60 exercices afin de faire passer les notions de éloquence par une pratique régulière. Le livre vise des lecteurs de niveaux variés. Depuis les personnes qui souhaitent gagner en aisance dans les échanges courants jusqu'aux professionnels désireux de rendre leur prise de parole plus efficace. Dès après sa présentation, il aborde notamment articulation, organisation des idées, maintien de l'attention, langage corporel, persuasion, récit et humour. Il ne semble donc pas se limiter aux règles classiques de la rhétorique, il traite la parole comme une compétence composite qui associe préparation intellectuelle, expression vocale, présence physique et relation avec un auditoire. La valeur annoncée de ce format réside dans le caractère détaillé et progressif des activités, faute de renseignements vérifiables sur le contenu précis de chaque exercice. Il convient de lire cet ouvrage comme un manuel de mise en application plutôt que comme un traité théorique exhaustif de l'histoire de l'éloquence. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, 60 exercices pour transformer des principes oratoires en habitudes. La caractéristique la plus identifiable du livre est son organisation autour de 60 exercices pratiques. Ce choix répond à une difficulté fréquente dans les ouvrages de communication, comprendre une règle ne garantit pas de pouvoir la mobiliser au moment de parler. La fluidité, la clarté ou la présence se construisent surtout par répétition, observation et ajustement. Un exercice peut ainsi donner un cadre pour isoler une composante de la prise de parole, la travailler volontairement, puis évaluer le résultat avant de recommencer. Cette démarche est plus opérationnelle que la simple accumulation de conseils. Elle permet aussi de fractionner une compétence vaste comme éloquence en tâches accessibles. La présentation indique que les activités sont détaillées et adaptées à plusieurs niveaux. Cela suggère un usage autonome, où le lecteur peut progresser selon ses besoins plutôt que suivre un parcours académique rigide. Le format convient particulièrement aux personnes qui cherchent une méthode de pratique régulière. Il faut néanmoins garder une attente réaliste, les exercices fournissent un entraînement, mais leur effet dépend de la fréquence de réalisation, de la capacité à recueillir des retours et de la confrontation graduelle à des situations réelles. Le livre met donc en avant une pédagogie de application, non une promesse de transformation instantanée. Deuxièmement, articulation et clarté comme fondation de la compréhension, le livre annonce un travail sur articulation et sur la communication claire. Cette priorité est structurante, car une idée pertinente perd de sa force si les mots sont imprécis, trop rapides ou difficilement audibles. Articuler ne signifie pas rechercher une diction artificielle, il agit de rendre chaque unité du message suffisamment distincte pour que le public puisse suivre sans effort inutile. La clarté concerne aussi le choix des formulations. Un discours oral doit généralement réduire les détours, expliciter son fil directeur et employer un vocabulaire adapté au contexte et aux interlocuteurs. Ces dimensions sont liées à une formulation trop dense peut entraîner un débit précipité, tandis qu'une parole mal posée peut brouiller même un raisonnement simple. Des exercices ciblant cette base peuvent aider le lecteur à identifier ses automatismes, par exemple une élocution relâchée ou des phrases excessivement longues. Le bénéfice dépasse le cadre du discours formel. Dans une réunion, un entretien ou un échange téléphonique, être compris dès la première écoute améliore la qualité de l'interaction et limite les malentendus. La place accordée à ces fondamentaux distingue une approche qui considère éloquence non comme un effet spectaculaire, mais comme une discipline de précision au service du sens. Troisièmement, structurer les idées pour guider attention de l'auditoire. La présentation de l'ouvrage insiste sur la structuration cohérente des idées et sur la capacité à maintenir attention de l'auditoire. Ces deux aspects doivent être pensés ensemble. Un public ne reçoit pas un discours comme un texte qu'il peut relire à volonté, il doit comprendre le cheminement au fur et à mesure. Une organisation reconnaissable aide donc les interlocuteurs à situer le sujet, suivre les étapes du raisonnement et retenir le point essentiel. Elle implique de hiérarchiser ce qui est indispensable, de relier les parties entre elles et de conclure sans introduire de confusion supplémentaire. Le maintien de l'attention ne dépend pas uniquement de l'énergie ou du charisme. Il est fortement lié à la pertinence du propos, au rythme, aux transitions et à la capacité de faire percevoir pourquoi une information mérite attention. Le lecteur est ainsi conduit à envisager son intervention du point de vue de la réception, et non seulement de ce qu'il souhaite dire. Cette orientation peut être utile pour les présentations professionnelles, les examens oraux ou les interventions associatives. Elle rappelle aussi une limite importante : aucune structure ne compense durablement un contenu faible ou inadapté. En revanche, un contenu solide gagne en impact lorsque sa progression est lisible et que chaque partie contribue à une intention principale. Quatrièmement, langage corporel et charisme dans la cohérence du message. Parmi les thèmes annoncés figurent le langage corporel et le renforcement du charisme. Dans un manuel de éloquence, cette association est pertinente à condition de ne pas réduire le charisme à une posture imposée. La communication non-verbale comprend notamment la manière de se tenir, de regarder, de bouger et de laisser apparaître ou non de la tension. Elle influence la perception de disponibilité, de maîtrise et de cohérence. Lorsque le corps, la voix et les mots transmettent des signaux contradictoires, le public peut hésiter sur le sens du message. Un entraînement pratique peut donc aider à prendre conscience de comportements automatiques, comme les gestes dispersés, le regard fuyant ou une immobilité défensive. Il ne vise pas nécessairement une performance théâtrale, mais une présence plus ajustée à la situation. Le charisme, dans cette perspective, peut être compris comme un effet de congruence. Une personne paraît plus crédible lorsqu'elle assume son propos, écoute les réactions et occupe espace avec sobriété. Cette approche a un intérêt concret pour les lecteurs anxieux face à un auditoire, car elle déplace attention d'une image idéale de orateur vers des éléments observables et travaillables. Les exercices annoncés peuvent ainsi servir de laboratoire pour relier confiance perçue et comportement précis. En dernier lieu, persuasion, récit et humour au service d'une parole adaptée. Le livre inclut persuasion, storytelling et humour parmi les dimensions de éloquence. Leur présence élargit la visée du guide au-delà de la correction formelle. Persuader suppose de présenter une idée de façon compréhensible et justifiée, tout en tenant compte des attentes de l'interlocuteur. Il ne agit pas seulement de chercher assentiment, mais de choisir des arguments, exemples et formulations qui rendent une position examinable. Le récit peut soutenir cette démarche en donnant une forme concrète à un enjeu, à condition de rester pertinent et de ne pas remplacer le raisonnement. Il facilite souvent mémorisation parce que le public peut relier une idée à une situation intelligible. L'humour, de son côté, peut détendre une atmosphère ou créer de proximité, mais il demande une attention particulière au contexte, au timing et au respect des personnes présentes. Ces procédés ne sont donc pas des ornements interchangeables. Leur utilité dépend du but de l'intervention, du cadre professionnel ou personnel et de la sensibilité de l'auditoire. En les intégrant à un ensemble de pratiques, Ouvrage semble défendre une conception souple de l'éloquence, savoir varier les ressources expressives sans perdre de vue le message. Cette orientation est utile pour éviter une parole uniforme, tout en rappelant que efficacité relationnelle exige discernement autant que technique. En conclusion, cet ouvrage peut intéresser en priorité les lecteurs qui veulent travailler leur expression de manière concrète, étudiants, préparant un oral, salariés amenés à présenter un projet. Personnes souhaitant mieux intervenir en réunion ou débutants désireux de réduire leur inconfort face à un groupe. Il peut également servir de support complémentaire à une formation, dans la mesure où les exercices donnent une base pour répéter entre deux mises en situation. Son bénéfice pratique réside dans la diversité annoncée des compétences mobilisées. Plutôt que de traiter seulement la diction ou la persuasion, il réunit clarté verbale, construction du discours, attention du public, présence corporelle, récit et humour. Cette amplitude permet au lecteur de repérer le maillon le plus fragile de sa communication et de ne pas confondre éloquence avec abondance de mots. Dans un domaine rempli de guides généraux sur la confiance ou le charisme, le trait distinctif du livre est surtout son positionnement comme cahier de pratique comportant 60 exercices. Il semble privilégier entraînement progressif et outils immédiatement mobilisables plutôt que théorie savante de la rhétorique. Les lecteurs recherchant une histoire détaillée des traditions oratoires, une analyse universitaire de argumentation ou des références scientifiques abondantes devront probablement le compléter par des sources plus spécialisées. En revanche, pour installer une routine de travail sur la parole et tester des techniques dans des situations quotidiennes, son format accessible et centré sur application constitue son principal intérêt. Si vous souhaitez soutenir les plumes de la sagesse, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!